Que le Seigneur nous donne vraiment son esprit, pour que nous puissions vraiment recevoir cette parole et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Nous lirons dans le livre de l'Exode, de Shemot en hébreu, le livre qui commence par les noms, ceux qui sont arrivés avec Jacob en Égypte. Nous lirons dans le chapitre 3, d'abord le premier verset, nous lirons les autres après. En traduction mot à mot de l'hébreu, c'est pas très beau des fois, mais pour moi c'est mieux. Et Moïse, alors de temps en temps je dirai un mot, le mot français, de temps en temps l'hébreu, c'est pas pour faire beau, mais c'est mon habitude, c'est pour... Je commence toujours à essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots, surtout derrière l'hébreu. Et Moïse, donc Moshe, était, j'ai eu un moment de savoir s'il fallait traduire par il est là, il fait, ou avoir, ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est bien ça, c'est le verbe être. Moïse était faisant, c'est-à-dire un participe présent. Moïse était en train de faire quelque chose. Si je me trompe, Mathias, tu as la liberté de me reprendre. Et Moïse était faisant paître le petit bétail. Petit bétail, ça veut dire bien souvent mouton et chèvre. Ce qu'on ignore souvent, c'est que pour la Pâque, on pouvait immoler aussi une chèvre. Les familles pauvres n'étaient pas obligées d'immoler un agneau. C'est écrit dans Lévitique 23. Donc du petit bétail, mouton et chèvre. Il faisait paître le petit bétail de Yétro, son beau-père, prêtre de Midian. Et là, il mena le petit bétail derrière le désert, et il vint vers la montagne de Dieu, Elohim, qui est nommée Horeb en français. Le décor est planté. Nous remarquons d'emblée que Moïse tient le devant de la scène. C'est son nom qui ouvre le chapitre 3 du livre de Shemot d'Exode. Moïse. Nous apprenons de fait qu'après avoir connu le haut du pavé en Égypte à la cour de Pharaon, Moïse est devenu un simple berger, un pâtre. Mais pas n'importe quel pâtre. Moïse est au service d'un prêtre, nommé Yétro, qui se trouve être son beau-père, le prêtre de Midian, nous y est-il dit. Oh, nous n'avons pas le temps ce matin d'examiner cette fonction de prêtre de Midian, ni le lieu où se situe cette contrée, mais n'oublions pas de quelle manière plutôt Moïse a rencontré sa future épouse, Sippora, l'oiselle, qui faisait boire son troupeau. Le puits, à cette époque, était un lieu de rencontre, comme le furent un peu avant la guerre les fontaines de nos villages. Et la Bible ne manque pas de récits qui se passent autour d'un puits, et le plus célèbre d'entre eux, Sichar, là où Jésus a rencontré la Samaritaine. Ceci pour vous dire que oui, Moïse lui aussi a rencontré son épouse autour d'un puits. Contrairement à ce que nous pouvons penser, les années passées en Égypte par les Hébreux ont été des années où le peuple, dans les premières années je parle, a très très bien vécu. Il s'est multiplié, il a foisonné, dit le texte hébreu, voire pullulé. Ce sont les verbes qui sont employés dans le livre de la Genèse que nous répétons ici. Pullulé, littéralement en hébreu. Et comment il a obtenu grâce aux yeux des Égyptiens. Pendant le règne de Joseph, devenu premier ministre du Pharaon, et grâce à certaines de ses vertus, l'interprétation des songes, les Hébreux ont obtenu des places importantes dans la sphère économique du pays. Dathan, Corée et Abiram ont fait fortune en Égypte d'après la tradition juive. Tout était pour le mieux pour les Hébreux. Et le chapitre premier de ce livre nous dit même que le peuple hébreu est devenu très très puissant. En hébreu, l'adjectif est répété, méod, méod. Nombreux, nombreux. Beaucoup, beaucoup. Mais la roue tourne. Et voilà qu'un nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, s'élève sur l'Égypte et voit d'un mauvais œil la prospérité d'un peuple qui n'était pas d'origine égyptienne. Et Pharaon craint qu'en guerre, ce peuple se lève pour combattre avec les ennemis d'Égypte et renverse son pouvoir. La peur est mauvaise conseillère et tout va basculer en un clin d'œil au pays du soleil levant. Mais ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est le fait que Moïse se retrouve dans une famille où le beau-père est sacrificateur. Il en était de même pour Joseph, qui avait épousé Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Est-ce pur hasard que le texte du chapitre 2 de l'Exode, vous lirez, sachez-vous, concernant les parents de Moïse, ne nous révèle pas leur nom, mais leur origine? Et à là, un homme, on ne sait pas comment il s'appelle, on le sait bien sûr par la suite, et à là, un homme de la maison de Lévi, et il prit la fille de Lévi, Yochébed, Dieu et sa gloire, ben c'est la mère de Moïse, vous savez, et fut enceinte la femme, et elle enfanta un fils, et elle vit que celui-ci était bon ou beau, suivant les traductions, elle le cacha pendant 3 mois. Vous remarquerez que les parents ne lui donnent pas de prénom. C'est Bithia, la fille de Pharaon, qui lui donnera. Moshé, du verbe macha, qui veut dire tirer. Moshé, ça ne veut pas dire sortir des eaux. Hein. On l'a sorti des eaux, mais Moshé, ça veut dire, c'est le verbe tirer. Là, dans ce cas-là, on l'a sorti de l'eau. Nous connaissons la suite. Moïse fut donc élevé par la fille de Pharaon dans toute la science des Égyptiens. Et son chemin paraissait tout tracé pour qu'il demeure en Égypte toute sa vie, aux frais de la princesse qu'il avait recueillie. La propre mère de Moïse, Jochébède, va même être payée pour élever son fils dans la maison de Pharaon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? La propre mère de Moïse va être payée par Pharaon pour nourrir son propre fils. Voilà comment Dieu fait les choses. Cet enfant qui était voué à la mort va être élevé dans la cour de Pharaon et sa propre mère va l'élever ainsi que sa sœur, aux frais de Pharaon. Voilà comment Dieu opère quand il trouve la foi chez ses enfants. Et le livre des Actes des Apôtres nous révèle que Moïse, je passe les étapes, âgé de 40 ans, traverse le pays de Goshen où il surprend un officier égyptien qui frappe à mort un hébreu. Après avoir abusé de sa femme, Moïse, indigné par ce comportement, s'interpose et tue l'Égyptien. Mais voilà qu'un Israélite, ça peut être Dathan, ça peut être Abiram, ça peut être Corison, un des trois toujours est-il, ils se sont toujours révoltés dans le désert contre Moïse, a été le témoin de cette scène et par jalousie envers Moïse, il va en informer aussitôt Pharaon. Moïse est un hébreu, sa mère est hébreu et sa sœur fait partie du peuple hébreu. Et les trois finiront avec les esclaves. Une sentence de mort est alors prononcée à l'encontre de Moïse qui doit s'enfuir au pays de Midian pour avoir la vie sombre. Il demeurera dans ce pays jusqu'à 80 ans avant de retourner en Égypte pour délivrer son peuple. Et le texte que nous étudions ce matin se passe juste avant que Moïse aille chez Pharaon. Je vous passe toutes les années parce que nous simplifions les choses. Mais vous savez que pendant 40 ans, au pays de Midian, Moïse ne s'est pas tourné les pouces. Ça, il faut connaître la tradition juive pour savoir ce qu'il est devenu. Nous lisons verset 2, toujours du chapitre 3, et les versets 3, 4 et 5. Traduction littérale. Donc Moïse est avec son troupeau, il va dans le désert, tout ça, il va sur le mont Horeb. Et voici ce qu'on nous dit. « Et se laissa voir le messager de Yahvé à lui, à Moïse, dans une flamme de feu, du milieu du buisson, et il vit, et voici le buisson brûlant dans le feu, et le buisson ne se consumait pas. Et il dit, Moïse, je veux faire un détour. Na, c'est écrit, ben. Na, oui, je veux faire un détour, et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et il y avait dit que Moïse avait fait un détour pour voir. Et Elohim appela Moïse vers lui du milieu du buisson et il dit, « Moshé, Moshé !» Et Moïse dit, « Me voici !» Alors comme vous l'avez entendu, enfin en français peut-être que c'est mieux, ce passage est structuré avec le verbe « voir » dans des formes différentes, telles que « regarder »,« voir », »,« vision », »,« me voici ». Quand on dit « me voici », ça veut dire « est-ce que tu me vois ?» Ça fait 40 années que Moïse emprunte ce chemin pour aller faire paître le troupeau de son beau-père. Il connaît parfaitement chaque buisson, chaque lieu. Et c'est pour cela qu'il est intrigué. Car un peu plus loin, sur le chemin, sur la droite, légèrement en amont, il aperçoit comme une sorte de mirage, voire un feu, bref, quelque chose qui ne semble pas du tout naturel. Il décide donc de se détourner. C'est le verbe qui m'a interpellé le plus ici dans ce texte. Il décide donc, Moïse, de se détourner du chemin qu'il a l'habitude d'emprunter pour aller voir de plus près ce qui se passe réellement. À quelques enjambées du buisson, il est tout étonné de voir qu'il est embrasé, qu'il dégage une grande chaleur, mais fait étonnant pour lui, il se rend à l'évidence que ce buisson ne se consume pas. C'est-à-dire que son aspect reste le même et qu'il ne semble pas se réduire en intensité. D'ailleurs, l'auteur de ce texte, sans doute Moïse lui-même, plus tard c'est lui qui va l'écrire, il va écrire sa propre histoire, le signale à la fin du verset 2 et au verset qui suit, le verset 3. Il le répète. Comment se fait-il que ce buisson ne se consume pas? C'est quelque chose de matériel, hein? Il est intrigué par ce phénomène. Et c'est justement à ce moment-là que Yahvé voit que Moïse se détourne de son chemin pour examiner de plus près ce fait. Et à ce moment précis, on a l'impression que Dieu est en train de jouer à cache-cache avec notre homme. Et Dieu l'appela. Moshé ! C'est même pas comme ça que Dieu l'appelle. Hein. Moshé ! C'est le verbe hébreu, kara, qui est employé et qui signifie crier. Et crier comment ? Comme une perdrix, parce que les perdrix, elles crient comme ça. C'est le même verbe qui est employé. Dieu crie comme une perdrix, il veut se faire entendre. Et Moïse n'étant pas encore assez près de lui, donc Dieu est obligé de crier pour se faire entendre de celui qui deviendra le prophète par excellence de la première alliance, Moshé Rabbeinu, comme disent les juifs, c'est-à-dire Moshé notre maître. Et Moïse répondit, « Me voici. » Le paradoxe de ce verset 5, c'est que Dieu, au moment où il perçoit que Moshé va se précipiter vers lui, l'interpelle de la façon suivante. N'approche pas d'ici. Il faut savoir ce qu'il veut. Il l'appelle, puis après il dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Dieu le met en garde, car s'approcher de la divinité est sans doute très dangereux. Uzza, qui marchait à côté de l'arche de l'Alliance, a fait l'expérience qui lui a coûté la vie. Il a eu peur que l'arche de l'Alliance se renverse, il a mis la main, il est mort sous le coup. S'approcher trop près de la présence de Dieu est dangereux. C'est en sorte comme un papillon qui se brûle les ailes sur une ampoule lumineuse. Malheur à moi, crie Isaïe dans le temps. J'ai vu les pans du manteau, qui n'est pas dans le texte, les pans qui remplissaient tout le temps, et moi je suis un homme aux lèvres iniques. C'est dans ce sens que c'est dangereux de s'approcher de Dieu. Autrement dit, halte là, Moïse, ne t'approche pas trop de moi, car en ce jour, à ce jour, aucun homme ne m'a approché d'aussi près. Aucun. Cela sera réservé à Moïse pour un temps futur, quand il se tiendra dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre avec Dieu, tous les jours de sa vie. Et quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il avait comme des cornes lumineuses sur la tête. C'est pour ça qu'on le représente, Chagall le représente, avec des comme une sorte de cornes. C'était la gloire, la cavote de Dieu sur la tête de Moïse. Et il couvrait son visage lorsqu'il parlait au peuple, quand il sortait du camp. Et puis il y avait de continuer. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, ce lieu est une terre de sainteté. À ce moment-là, Moïse se demande s'il n'a pas mis les pieds dans le plat, comme on dit vulgairement. S'approcher trop près de Dieu. Il s'exécute rapidement et cherche peut-être à comprendre. Surprenant le texte. Aussi le fait que Dieu dise à Moïse, l'endroit où tu te trouves, Moïse, c'est un sol qui est sacré. Il n'y a aucune pancarte pour indiquer que ce sol est sacré. Et sacré, il n'y a aucun bâtiment qui ressemble de près ou de loin à un lieu de culte, aucune barrière limitant une propriété privée, aucune indication de frontière entre deux pays voisins, bref, rien qui justifie pour Moïse que ce lieu est saint. Moïse est perplexe. Heureusement pour lui, la voix qui s'est adressée à lui reprend de plus belle. Je suis le Dieu de ton père. Aïe, 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 aïe. Accrochez vos ceintures. Je ne sais pas si Moïse, au moment où il vit cette expérience du buisson ardent, si Moïse, à cette époque, connaissait le Dieu de son père. Prenons un instant de réflexion pour répondre à cette question. Nous sommes tellement habitués à prendre les textes avec 2000 ans de recul qu'on mélange tout et parfois on s'écarte de ce que nous la parole nous dit. Moïse est né en Égypte, nous sommes à la quatrième génération depuis l'entrée de Jacob en Égypte. Jacob, lui, n'est pas resté en Égypte. Hein. Il est venu, il est resté quelques années, puis il est mort. Joseph a été enseveli aussi. Hop. Donc Jacob, son premier fils, un de ses fils, Lévi. Ensuite, le fils de Lévi, Kéat. Ensuite, le fils de Kéat, Amram. Et ensuite, le fils d'Amram, c'est Moïse. Pas compliqué, quatre générations. Depuis que Dieu s'est révélé à Abraham, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 430 années découlées. 430 années où la foi s'est transmise de génération en génération. Mais il semblerait que depuis la mort de Jacob et de Joseph en Égypte, cette transmission, je dis bien il semblerait, ait cessé et se soit arrêtée à Amram, le père de Moïse. Yahvé dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. L'Écriture sainte ne nous dit rien sur les années obscures où Moïse a été élevé à la cour de Pharaon. Nous ne savons pas si la mère de Moïse, Jochebed, a pu transmettre sa foi à Moïse. Si réellement Dieu était le Dieu de Moïse en s'adressant à lui, il l'aurait interpellé de la manière suivante, « Moshé, je suis l'Éternel, ton Dieu !» Je sais que c'est déstabilisant pour certains d'entre vous d'entendre une telle provocation, mais en y réfléchissant encore plus, je suis persuadé que Moïse ne connaissait pas Dieu avant cette rencontre. Dans l'Écriture sainte, lorsque Dieu se révèle à un homme, il emploie cette formule connue de tous, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais la particularité de ce verset 6 de ce chapitre 3 du livre de l'Exode, c'est l'ajout qui précède notre formule, « Je suis le Dieu de ton père » et il rajoutera « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». J'aimerais retirer de notre lecture de ce matin trois points principaux pour nourrir notre foi. On parlera sur le buisson ardent et notre foi. Premier point. Même quand notre avenir paraît bouclé, ficelé, enfermé, ligoté, que l'horizon est bouché et que les ténèbres nous entourent, Dieu entend nos supplications et tient toujours ses promesses. Pourquoi je vous dis ça? N'avait-il pas dit à Abraham, Dieu, Genèse chapitre 15, versets 13 et 16, lorsqu'il offre la bérite, l'alliance, là, le corban, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans, et à la quatrième génération, s'il vous plaît, je ne l'invente pas, ils reviendront. Lévi, Kérak, Abraham, Moïse. Pourtant, je ne connais, et Mathias pourra me fusiller à la sortie du temple s'il le désire, je ne connais aucun texte biblique qui prophétise que Moïse serait celui que Dieu choisirait pour délivrer le peuple hébreu de Misraïm. Je ne connais aucun texte biblique qui prophétise que Moïse serait celui que Dieu choisirait pour délivrer le peuple hébreu de Misraïm. Lorsque nous lisons ce verset, un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la maison de Lévi, il faut se poser les bonnes questions. Mais pourquoi ne sont-ils pas nommés? L'important, ce n'est pas le nom de l'homme ou de la femme. L'important, c'est la tribu d'où ils viennent. La tribu de Lévi. Alors où Pharaon, écoutez bien, alors où Pharaon tuait tous les nouveau-nés masculins, il fallait vraiment avoir foi aux promesses de Dieu pour résister aux ordres de ce tyran en choisissant femme pour procréer. Qui chez les Hébreux pouvait interpréter cette naissance comme un signe venant du ciel? Personne. La Torah n'était pas écrite. Mais il existait une tradition orale. Et là, on est sauvé. Surtout le prédicateur. Mais il existait une tradition orale. Et sans doute que le texte que j'ai cité plus haut concernant la prophétie faite par Dieu à Abraham, et peut-être que ce dernier, je parle de Abraham, en choisissant de prendre pour épouse une fille de Lévi, est poussé par l'Esprit Saint. Faut être suicidaire, fou, ou bien inspiré pour espérer l'accomplissement d'une telle prophétie. À la quatrième génération, il reviendra. Cet argument a autant de valeur que de croire que plus tard une vierge deviendra enceinte pour donner naissance au futur Messie de l'histoire juive. Pareil. Et je m'avance sur une terre sainte, celle de la Torah, en croyant que Dieu, en choisissant plus tard la tribu de Lévi comme prêtrise, cet épisode-là, sans aucun doute, est revenu à sa mémoire. Ce n'est pas le seul épisode, mais je crois qu'il y participe vraiment. Saisissons les promesses de Dieu et agissons pour qu'elles s'accomplissent. C'est ce qu'a fait Abraham. C'est ce qu'il a fait. Il sait, Abraham, Dieu est son père. Il sait qu'à la quatrième génération, Dieu va délivrer son peuple. Il va tout faire pour que celui qui doit délivrer son peuple naisse, et c'est ce qui va se passer. Deuxième point. Moïse a été instruit dans toute la connaissance de l'Égypte, dans les arts, les lettres, l'architecture, et nous oublions une chose, les armes. Moïse est un guerrier. Dans la tradition juive, Moïse est rompu au maniement des armes. Il co-dirige l'armée de Pharaon avec le fils de Pharaon lui-même. Comme l'était son ancêtre Térak, père d'Abraham, à la cour de Nimrod, le premier tyran de l'histoire de l'humanité. Pas curieux cette histoire qu'Abraham, d'un seul coup, on lui dit que ton fils, ton neveu Lot a été enlevé par quelques rois, là. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il prie, il se met à genoux, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la guerre. Il connaît les armes. Parce que son père était général en chef de l'armée de Nimrod. David lui-même, bien qu'étant berger, est devenu l'un des plus grands chefs de guerre. David lui-même. Oui, l'armée de Pharaon était bel et bien sous le commandement de Moïse. De même que Joseph était devenu le premier ministre de Pharaon. Moïse connaissait le désert. Moïse connaissait les points d'eau. Moïse connaissait les oasis, etc., etc., lors de ses croisades pour agrandir le territoire d'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'on enlève le miraculeux quand on dit ça. Hein? Dieu, dans le secret de son plan, préparait un homme qui deviendrait l'un des plus grands prophètes que la terre ait porté. Oh, Moïse arrive sur la scène comme ça. Mais on oublie son histoire. On oublie d'où il vient. On oublie toutes les circonstances. Il en est de même pour Saul de Tarse. Élevé au pied des Gamaliel, l'un des plus grands sages d'Israël de l'époque, Saul de Tarse, qui deviendra le plus grand des apôtres à mon goût, a été préparé pour cet apostolat. Il devra comparaître devant César pour témoigner devant celui-ci que Jésus est Seigneur. D'où venez-vous? Je m'adresse à vous. Quelle est votre formation? Quel est votre parcours spirituel? Quel est le contenu de votre foi? Je ne le sais pas, mais Dieu lui le sait. Votre responsabilité aujourd'hui est de prendre du temps devant Dieu, comme Moïse ou Paul dans le désert d'Arabie. Quel âge avait Moïse quand il a commencé son ministère?
80
années. Ok, je pense qu'aujourd'hui il y aura beaucoup d'appelés puisque nous n'avons pas atteint l'âge limite d'enrôlement. Nous n'avons pas atteint l'âge limite d'enrôlement. 80 années, Moïse a été choisi par Dieu. Troisième point, je crois que c'est le point le plus important. Le drame de l'Église aujourd'hui dans son ensemble, c'est le fait qu'elle s'est installée dans un confort religieux, voire de religiosité. La plupart de nos rendez-vous bibliques sont tombés dans la routine, car même si pour la plupart, ils ne nous font pas de mal, ils ne nous conduisent pas plus loin dans notre foi. Ils nous nourrissent, c'est vrai, et tant mieux. Mais comme nous ne faisons pas d'exercice spirituellement parlant, ils nous engraissent et nous paralysent par un surcroît de réunions. Nous devons rechercher dans la prière la vision pour laquelle Dieu maintient notre lumignon qui fume. Nous devons rechercher dans la prière la vision pour laquelle Dieu maintient notre lumignon qui fume. Il faut accepter que la vigne, notre communauté, et les sarments qui s'y rattachent, les chrétiens, soient taillés pour que nous puissions porter du fruit. Dieu commence un travail au milieu de sa vigne. Je parle de la communauté. Dieu commence un travail au milieu de sa vie. Ne lui résistons pas. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Ne perdons pas de temps avec l'ivraie qui se trouve au milieu de nous. Dieu s'en chargera lui-même. Recherchons sa volonté pour notre propre vie et celle de la communauté. Et croyez-moi, il nous la révélera, car celui qui cherche trouve. Occupons-nous des affaires de notre Père. Au lieu de perdre du temps avec tous les débats que l'on nous propose et qui nous mèneront tôt ou tard au conflit. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, particulièrement dans la communauté et si possible dans ce monde. Évitons les discussions vaines et stériles qui nous mènent à rien et recherchons et aspirons dans les meilleurs pour que l'Église devienne une armée qui trop longtemps a laissé du terrain à l'ennemi. Nous devons reprendre le terrain que Satan nous a pris. Nous subissons le monde. Nous devons le combattre. Allons, et que le Seigneur fasse briller sa bonté et sa beauté sur chacune de nos vies. Amen.